Bonjour Nicolas Stocker.
Bonjour Arnaud, bonjour la technique, que nous remercions évidemment pour la réalisation de cette émission. Il est essentiel, tout comme le sont bien nos bénévoles, tels que ceux qui peuvent se retrouver au standard. Alors, vous pouvez toujours essayer d'appeler, mais sinon, le plus simple, c'est quand même d'envoyer un courriel électronique. Ça vous permettra de dire votre ressenti, vos coups de cœur, vos coups de colère, vos questions. Éventuellement sur un sujet dans ce florilège des arts, qui sera un sujet dont la caractéristique principale sera de type historique et donc sur lequel vous pourriez être amené à nous poser des questions, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, donc n'hésitez pas, posez vos questions par courriel électronique et cela nous sera transmis à mon invité comme à moi-même et nous ne manquerons pas, surtout si c'est relativement tôt dans l'émission, d'y répondre en cours d'émission, bien sûr. Émission qui est courte, donc sans plus tarder, je vais tout de suite vous rappeler, vous présenter l'invité du jour. Mon invité, c'est un habitué de ce florilège des arts. Vous le connaissez comme habitué aussi de plusieurs de mes émissions au fil des années sur Radio Courtoisie. Il s'agit de conseiller, ancien conseiller du président de la République pour tout ce qui est bistrot, et puis aujourd'hui vice-président. Alors c'est pas la République française, c'est la République de Montmartre. Il s'agit bien sûr de notre ami Gérard Letailleur. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Nicolas. Très heureux de me retrouver avec vous.
Gérard, on va parler de quelque chose qui vous est cher, d'un quartier qui vous est cher, celui de la butte Montmartre. Des sujets que vous connaissez parfaitement, avec évidemment ce livre sur la vie des bistrots parisiens. Donc vous connaissez parfaitement les cabarets à Paris. Et on va parler, chers auditeurs, ce matin dans le Florilège des Arts avec Gérard Letailleur, du Lapin Agile, vous savez, ce cabaret de Paris qui est situé sur la butte Montmartre au 22 rue des Saules, dans le 18e arrondissement, établi dans la seconde moitié du 19e siècle, racheté par Aristide Bruand, une figure immense, bien sûr, du Paris montmartrois. Il l'a racheté en 1913. On parlera aussi de celui qui en a été son directeur pendant plus de 55 ans, Yves Mathieu, qui nous a quittés dernièrement, donc au mois de juin de cette année 2026. Donc Yves Mathieu, immense personnalité, chansonnier, il avait presque atteint le siècle quand il a tiré sa révérence. C'était une figure de Montmartre et on peut faire confiance à notre ami Gérard Letailleur pour honorer aujourd'hui cette mémoire. Mon cher Gérard, pour commencer déjà, quelles sont les nouvelles de Montmartre, de la République de Montmartre, de la Bonne Franquette, siège social et restaurant la République de Montmartre? Est-ce que vous avez des nouvelles particulières à nous donner?
Oui, bien sûr. Notamment une attraction extraordinaire que nous allons avoir ce week-end, en l'occurrence dimanche, puisque dimanche, c'est l'arrivée à Paris du Tour de France. Or, ça sera pour la seconde fois que le Tour de France passera à Montmartre. Les coureurs remonteront trois fois la rue Lepic, ce qui est quand même extraordinaire. Ils préféraient d'ailleurs, je pense, les coureurs ne pas le faire dans les années précédentes, parce que au terme d'une course aussi difficile, ça équivaut, à mon avis, quand même à un col des Alpes. Pour pas dire même plus un col encore plus extraordinaire, parce que avec toute la fatigue accumulée dans les jambes, c'est quand même étonnant de pouvoir encore réaliser cela à quelques centaines de mètres, j'allais dire, de l'avenue des Champs-Élysées, où aura lieu, comme chaque année depuis très très longtemps, l'arrivée officielle donc de cette épreuve. Donc on attend, comme l'année dernière, près de 500 000 personnes, je pense, durant ce week-end à Montmartre, et notamment dimanche dans l'après-midi pour voir passer les coureurs. Voilà, ça c'est la grande attraction, j'allais dire, actuelle, mais il ne faut pas oublier que Montmartre est toujours en vacances, on peut le dire, puisque Montmartre accueille chaque année 12 millions de touristes, dont certains viendront spécialement pour le Tour de France, qui est un tel événement d'ailleurs que c'est depuis, d'après, comment dirais-je, France, la télévision française, donc, c'est la première fois depuis 25 ans que ça a un tel succès, puisque on a, je crois qu'ils ont eu en audience plus de 9 millions de téléspectateurs l'année dernière, ce qui était tout à fait extraordinaire. Voilà, donc France Télévisions se réjouit une nouvelle fois de pouvoir toucher autant de personnes en si peu d'heures.
D'accord, donc ça c'est l'actualité de Montmartre.
C'est l'actualité
de
Montmartre,
France, évidemment,
voilà.
C'est deux immenses traditions qui se rejoignent finalement au travers cet événement. Très bien, et la revue.
Alors, la revue Montmartre en revue, elle va très bien, puisque nous tirons en moyenne à 25 000 exemplaires. Tous les exemplaires sont distribués, donc c'est quand même un grand succès. Et nous avons donc cette opportunité à chaque fois de toucher beaucoup de monde, à travers le monde entier d'ailleurs, hein, puisqu'on en envoie beaucoup aussi à l'étranger. Et ouais. Les gens sont heureux de voir et d'être informés de tout ce qui se passe à Montmartre dans les quelques pages donc de ce magazine qui est bien prisé, qui est en couleur, qui est très 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 bien fait. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à nous contacter même par le net. Montmartre en revue, c'est la République de Montmartre donc qui s'en occupe. Et la revue qui est trimestrielle leur sera adressée gratuitement dès la parution. Donc c'est toujours très très agréable de pouvoir la recevoir et d'être ainsi tenu au courant de tout ce qui se passe à Montmartre.
Bon, ben voilà qui est une information intéressante. Fort bien. Alors, mon cher Gérard, le sujet, c'est le lapin agile. C'est le cabaret le plus ancien de Montmartre, je crois. Parlez-nous un petit peu déjà, commençons par ses origines avant d'en arriver à aujourd'hui.
Ben avec grand plaisir. Si vous voulez, tout commence en réalité en 1795. Vous voyez, c'est même bien bien avant le 19e siècle qui a vu, surtout la seconde partie du 19e siècle, fleurir réellement le lapin agile. Alors pourquoi 1795? Parce que c'est c'est l'année où on va voir une petite maison apparaître comme ça à l'angle aujourd'hui, j'allais dire des rues des Saules et Cortot. Elle est construite, cette petite maison, avec des planches de fortune. Bon, et peu à peu, elle fera office d'auberge de routiers, où se réuniront donc surtout des marginaux qui, on peut le dire d'ailleurs, en terniront vraiment la réputation, puisque elle sera rapidement surnommée au rendez-vous des voleurs. Vous voyez, ça laisse une petite idée des transactions qui devaient s'y opérer à l'époque. Voilà. Alors ça, c'est pour le début, mais enfin, c'est important parce que c'est aussi le moment où Paris commence à respirer, hein, puisque peu de temps auparavant, 23 têtes sont tombées, dont celle de Maximilien de Robespierre. Et qui entérinait d'ailleurs la loi des 22 prairiales, cette horreur, la loi des suspects où on arrêtait n'importe qui et la personne était guillotinée pratiquement dans la journée. Donc Paris respire un peu et c'est le moment donc où va naître à travers cette petite maison donc le futur lapin agile. Et puis,
alors on passe du rendez-vous des voleurs au... En plus, à ce qui s'appellera en 1869 le cabaret des assassins, de mieux en mieux.
Oui, c'est-à-dire que la clientèle est toujours à peu près la même. Là, on va franchir quelques années, parce que 1795, on construit. Vers 1860, donc, c'est officiellement le rendez-vous des voleurs. Et ouais. En 1869, donc quelques semaines, on peut dire juste avant la chute de Napoléon III, le lieu va changer d'appellation, vous avez parfaitement raison, puisque ça va devenir... Le cabaret des assassins. Alors pourquoi le cabaret des assassins? Parce que le tenancier d'alors, qui était fasciné par les criminels, avait la curieuse manie d'accrocher sur les murs des gravures représentant des assassins célèbres. Vous savez, c'est l'époque où il y avait beaucoup de petits journaux, genre le Petit Parisien et autres. Et dans ces journaux, il y avait beaucoup de gravures, dont certaines représentaient des tas de personnages historiques. Et pourquoi pas des assassins dans le genre de Jacques Clément ou de Ravaillac. Et alors, ce tenancier donc encadrait tout cela et il mettait ça sur ses murs. Et puis, allait apparaître aussi, alors dans l'histoire parisienne, un personnage absolument effrayant. C'était, on peut dire, peut-être le premier serial killer, excusez-moi d'employer le terme, on va dire un assassin quand même, qui va être réputé par le nombre de ses victimes. Il s'appelle Troppmann.
Alors, Jean-Baptiste.
Ce Troppmann, il avait compris quelque chose. Bon, il n'avait pas inventé, comme on dit en Normandie, le fil à couper le beurre, mais il avait simplement compris qu'il était le 7e ou le 8e sur une liste de personnes qui pouvaient espérer toucher un héritage important. Alors il s'est dit, je vais tous les tuer, puis quand il ne restera plus que moi, je pourrai récupérer l'héritage. Voilà. Et alors, je dis ça en plaisantant, mais malheureusement, c'est la vérité. Et à chaque fois donc, qu'il a assassiner quelqu'un, eh bien ça faisait l'objet donc d'une gravure, et cette gravure était ensuite donc punaisée, épinglée sur le mur donc du cabaret des assassins. Dieu merci, il a été arrêté, ce Troppmann, et puis Dieu merci, il a été exécuté.
Donc, il a été décapité,
guillotiné. voilà. Alors on peut pas dire que jusqu'à présent donc le lieu ait été porteur de, j'allais dire, d'éléments très très, très positif. Mais il y a une femme qui arrive, elle est extraordinaire. Elle s'appelle Adèle, elle se prénomme Adèle. C'est une ancienne meneuse de revue. Alors, elle a dansé un petit peu partout, dans les grands cabarets Montmartre notamment. Et elle a envie d'aller à la campagne. Et puis à la campagne, c'était la butte Montmartre. Hein. C'était pas bien loin, la campagne, à l'époque. Donc, elle va franchir la rue des Saules, ou la rue Lepic, elle arrive sur les hauteurs de la butte, et elle découvre cette petite maison, et elle va l'appeler ma campagne, d'ailleurs. Et puis, ça changera vite, parce que elle donnera bientôt, d'ailleurs, le nom du cabaret actuel, donc le Lapin Gilles au lieu.
Le Lapin Gilles.
Voilà. Alors, elle va, comment dirais-je, donc, faire appel à un personnage très connu à l'époque, qui est un caricaturiste, là on est, pour être plus précis pour les personnes qui nous écoutent, nous sommes en 1886, hein, donc ça en est passé beaucoup de choses depuis. La commune notamment est terminée, puisque celle-là on était en 1871, donc le lieu est un petit peu plus tranquille. Et le grand caricaturiste André Gilles donc est convié par Adèle pour créer l'enseigne du lieu. L'enseigne qui existe toujours, hein. C'est plus l'original qui est là, mais c'est toujours la même. Donc cette enseigne, il va la peindre, et quand il est à l'intérieur, parce qu'il peint ce tableau à l'intérieur donc du local, il met, pour les personnes qui se demandent où il est, notre ami André Gilles, il met un petit carton comme ça devant la porte, sur lequel est écrit « Ici, peint à point ». Gilles, ici pas à Gilles. Alors les gens ils passaient, et puis disent ici pas à Gilles, lapin à Gilles, etc. Et puis voilà donc, surtout qu'André Gilles en même temps était en train de créer cette enseigne qui se présente de la manière suivante. On y voit un lapin vêtu d'une redingote, qui s'échappe d'une casserole. Alors il a sur la tête une casquette à trois ponts, comme on disait à l'époque, c'est vraiment la casquette des Marlots. Il tient une bouteille en équilibre en même temps, et il a une redingote verte. Donc voilà, ça c'est le thème de ce tableau qui a fait vraiment le tour du monde, parce que quand je parlais des 12 millions de touristes qui viennent à Montmartre, on peut dire que presque tous les touristes font au moins une photo du lapin à Gilles lorsqu'il se trouve sur les hauteurs donc de Montmartre. Et d'ailleurs, la renommée depuis ne se sera jamais, ne s'est toujours pas démentie d'ailleurs. Bon. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu l'histoire la plus ancienne. Alors, on y trouve aussi donc, puisque la redingote est verte, deux couleurs qui dominent cette enseigne. Donc c'est le vert et le rouge de l'écharpe donc du lapin. Alors, ça sera d'ailleurs les couleurs de la commune libre de Montmartre, la commune libre du vieux Montmartre, pour être même plus précis, le vert et le rouge. Puis voyez le jeu de mots de ces épicuriens qui ont fondé d'ailleurs la République aussi d'ailleurs, mais enfin je veux dire la commune libre de Montmartre, le vert et le rouge, c'est-à-dire c'est le vert de rouge qui devient le symbole. C'était mon ami Jean Moussnier que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques décennies maintenant, ça va tellement vite le temps, qui m'avait raconté tout cela en détail, qui était maire de la commune libre de Montmartre et qui, comment dirais-je, pour ne pas l'oublier, qui avait, ça c'était une de ses grandes réussites, marié Coluche et le Luron sur les hauteurs de la butte avec l'ami Michou et les Michettes qui encadraient un petit peu ce curieux mariage. Voilà. Et donc ce lieu alors, va en même temps attirer dès la création des personnalités extraordinaires. On a parmi les plus anciennes, on peut parler de Guy de Maupassant qui fréquentait le lieu. Et puis quelques temps après, on a vu arriver des personnalités extraordinaires comme Max Jacob aussi, le Quimpérois Max Jacob qui vivait plus à Paris d'ailleurs qu'en Bretagne. Et tous ces gens donc sont venus hanter le Montmartre. Parmi les plus anciennes aussi, on peut parler aussi de Guillaume Apollinaire, de Pablo Picasso, qui venait avec la colonie espagnole, avec Juan Gris, avec tous ces peintres du bateau Lavoir. On a vu se produire d'ailleurs, puisqu'on est un petit peu là dans les grandes personnalités du Lapin, les gens qui ont fréquenté le Lapin, parmi les plus anciennes aussi, des chanteuses dans les années 30, on reviendra dessus, enfin comme Rina Ketty, etc. Donc, c'était un grand lieu de rencontre. Tout le monde passait au Lapin Agile, parce que c'était le lieu où on déclamait de la belle poésie, des beaux poèmes, et ça nous manque. Enfin, ça nous manque pas aujourd'hui encore, parce que Dieu merci, malgré même le départ de notre ami Yves Mathieu, ses deux fils ont pris le relais aujourd'hui. Donc, ça continue, ça perdure. Et on a voilà. Et puis on y verra aussi au début du XXe siècle des personnalités prodigieuses que j'adore comme Francis Carcot, Pierre Macorlan, Guillaume Apollinaire, bien sûr, je l'ai cité, je pense déjà. Et puis aussi Dorgelès qui nous écrira aussi pour avoir vécu l'enfer pendant la Première Guerre mondiale. Les Croix de Bois, son grand, grand chef-d'œuvre magnifique, là, consacré à nos grands-pères, parce que mes deux grands-pères, comme ceux d'ailleurs de toutes les personnes de ma génération, ont traversé cette épouvantable guerre. Voilà. Donc, c'est aussi ça, Montmartre, c'est-à-dire qu'ils ont traversé cette période. Vous parliez de 1913 tout à l'heure, lorsque Frédé a repris ça des mains même, d'ailleurs, d'Aristide Bruand. C'est des gens qui ont traversé véritablement l'enfer, qu'ils allaient traverser l'enfer, 13, puisque la guerre était vraiment, allait se déclarer peu de temps après. Voilà, donc ceci pour essayer de situer en quelques dates l'histoire du Lapin de 1795, donc jusqu'au début du XXe siècle. Puis après, vous avez fait allusion, Nicolas, justement au fait où apparaît Aristide Bruand. Alors Bruand, c'est un personnage que tout le monde connaît, qui est le symbole même de Montmartre, qui a été d'ailleurs véritablement immortalisé par un peintre que nous adorons.
À Toulouse-Lautrec.
Bien sûr, voilà, on voit cette silhouette extraordinaire.
Bien sûr.
Puisque d'ailleurs, notre grande tenue à Montmartre.
Exactement.
On essaie de se rapprocher un petit peu de l'aspect de Bruand en ces années-là. Voilà.
D'ailleurs, vous portez très bien l'habit.
Vous êtes gentil,
mon cher Gérard.
Vous êtes gentil.
Est-ce que vous voulez, Gérard, puisque c'est le moment, que l'on passe une
courte pause musicale, justement, avec, je crois que vous nous avez choisi un morceau d'Aristide Bruand, je crois, c'est ça ?
Absolument, voilà. Alors, j'invite nos auditeurs à écouter une chanson, une petite chanson, c'est « À mon Mertes ». Voilà, j'essaie de le prononcer à la manière de Bruand, « À mon Mertes ». Voilà, donc, alors, soyez indulgents, parce que, comment dirais-je, l'enregistrement est très ancien, voilà.
Mais bon,
on va être dans l'ambiance.
Très bien. À tout de suite, chers auditeurs.
Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils à Poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi j'ai les miens, à mon Berthe. En 1870, mon papa cadorait le 3-6 et la verte est mort à 47 ans, qui fait qu'il repose depuis longtemps à mon meurtre. Deux ou trois ans après, je fis, qui peut s'appeler pour un bon fils, une rue de perte, un soir, sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laisse échoir à mon meurtre. Je ne suis pas très heureux depuis, j'ai bien souvent passé mes nuits sans couverte, et bien souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à mon meurtre. Mais on était chouette en ce temps-là, on ne sacrifierait pas sur la butte déserte. Elle faisait la cour à Nini, Nini qui voulait faire son nid à mon merde. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille pute retirait sa robe verte, nous nous époussions dans les foins, sans mère, sans noce et sans témoin, à mon merde. Depuis, nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui feront perte, des petits poiriers qui grandiront, qui produiront des petits mourons à mon meurtre. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils à Poirier, la rue Berthe, depuis les temps les plus anciens, nous habitons, moi je les miens, à mon Berthe.
Eh bien voilà. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le Florilège des Arts en compagnie de Gérard Le Tailleur, vice-président de la République de Montmartre, que l'on ne présente plus, et qui nous parle ce matin dans ce Florilège du lapin agile, avec tous les jeux de mots que l'on peut faire autour de ce lapin agile. Voilà, et nous étions bien en train d'écouter, je crois, c'est bien ça, je voulais peut-être en faire un commentaire rapide, Gérard, une chanson d'Aristide Bruand, « À mon Mertre ».
Tout à fait, voilà. Et alors, justement, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, puisque on peut faire un lien entre le lapin agile et Bruand à travers l'endroit où vivait Aristide Bruand à l'époque. Il louait une petite maison qui était à l'angle de la rue des Saules et de la rue Cortot, où on a notre grand musée d'ailleurs à Montmartre. Et Bruand donc passait tous les jours devant ce lapin agile, et il s'apercevait quand même que le lieu devenait de plus en plus délabré, et ça l'agaçait, parce qu'il voulait pas que ce cabaret disparaisse. Donc il faisait vraiment tout, il a voulu tout faire pour le sauver. Et là il a fait appel à un homme qui était un de ses amis. Là on est en 1903, pour être précis. C'était un ancien potier, c'était le Frédéric Gérard, qui s'appelait Frédéric Gérard, qui tenait à l'époque même un bistrot, 28 rue Ravignan. Ce bistrot s'appelait le Zut, Z-U-T, c'est l'époque où il y avait justement cette association, les Zutistes, vous savez, qui rejoignait quelque peu d'autres associations des mille gouttes d'eau, etc. Donc, on en avait parlé une émission précédente. Et comment dirais-je, donc, ce père Frédé, qui faisait aussi, qui avait fait les marchés, il avait fait à peu près tous les métiers dans sa vie, qui faisait les marchés d'ailleurs avec un petit âne, Lolo. On pourra revenir sur l'âne Lolo aussi tout à l'heure, puisque ça fait l'objet d'un canular très, très célèbre à Montmartre. Puis on va faire peindre à ce Lolo un tableau. Et bien, donc, en 1903, Frédé est contacté donc par Bruant, et Bruant donc l'installe avec son épouse à Frédé, donc Berthe, donc dans ses locaux donc du Lapin Agile. Et la première réaction d'ailleurs de Frédé, ça va être de faire disparaître rapidement toute cette clientèle un peu douteuse de l'ancien cabaret des assassins, parce que il a envie de donner, comment dirais-je, un autre souffle à ce cabaret, notamment le tourner vers ce qu'il adore, c'est-à-dire la poésie, parce qu'il chante, il s'accompagne à la guitare. D'ailleurs, que les personnes qui nous écoutent n'hésitent pas à consulter le net, de taper simplement Ina Père Frédé, et puis ils pourront découvrir comme ça, en ces années-là, le père Frédé chantant devant, assis devant, avec sa barbe blanche. C'était un personnage étonnant. Ses chansons, peut-être dont celle d'ailleurs que vous venez d'entendre à Montmartre de Bruant. Donc, l'ambiance du cabaret va complètement changer. L'intérieur, il y a une odeur qui va commencer à véritablement, j'allais dire, faire disparaître toutes les autres. C'est cette odeur de bois boucané qui émane quelque part aussi de cette grosse cheminée énorme qui est continuellement donc allumée. Il y a quelques marches aussi, une salle basse et sombre. Sur les murs, alors on n'a plus, Dieu merci, les assassins célèbres. Au contraire, Dieu merci, il y a un grand Christ en plâtre qui est là, un bas-relief hindou aussi, pour être un peu plus précis, il y a un Apollon et sa lyre, un vitrail, quelques affiches, des tableaux, dont un tableau de Picasso. Actuellement, vous avez toujours ce tableau, mais c'est la copie, hein, puisque l'original est à New York. Et puis une énorme cheminée en plâtre avec sa gueule noire béante en pestant la fumée, décorée d'étranges d'ailleurs, d'étranges personnages, espèces de démons, de damnés. Et puis bon, heureusement qu'il faisait un petit peu sombre d'ailleurs dedans, parce que entre les tables, en général, il y avait des rongeurs qui se promenaient, des souris blanches. Voilà, c'était un peu. On est en 1903. Là, je pense que ce genre d'endroit n'était pas visité par des fonctionnaires s'occupant notamment de l'hygiène du lieu. Ça n'avait strictement rien à voir encore. Mais enfin, nonobstant tout cela, il faut pas oublier aussi que la criminalité était aussi, j'allais dire, était à son comble, hein, puisque quand on évoquait les souvenirs, même avec Yves Mathieu, hein, que je voyais régulièrement, qui était un homme que j'aimais énormément, Yves nous racontait que quand le père Frédé chantait ou d'autres artistes venaient déclamer leur vers, leur poème, il y avait des coups de feu à l'extérieur. Hein, on entendait des coups de feu, il y avait des règlements de compte. D'ailleurs, en 1911, l'un des fils de Frédé, Victor, va être assassiné à coups de revolver. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, c'est un couple qui est venu. Règlement de compte, sûrement. Bref, tout ça, ce sont les pires souvenirs donc, du cabaret. Et parce que ça a affecté terriblement, bien sûr, Frédéric Gérard, le père Frédé. Alors, Berthe, sa femme, elle est extraordinaire. Elle est d'une gentillesse étonnante. Quand arrivaient les copains de Frédé, elle les regardait, puis il y en avait qui avaient de telles mines, ils étaient sous-alimentés, les pauvres malheureux. On voyait que, bon, ils vivaient dans une semi-misère. Alors elle disait rien, elle préparait des espèces de sandwichs, et elle les glissait dans les par-dessus des personnes qui venaient simplement se réchauffer en écoutant des poèmes. Et le lendemain, ou le surlendemain, bah, c'est, les remerciements venaient, enfin, commençaient à arriver, et puis tout le monde remerciait Berthe de sa gentillesse. Et elle disait, ah bon, non, non, c'est pas moi, non, non, je sais pas. C'est un peu le Père Noël, quelque part, qui était passé un peu. Donc, elle était renommée pour sa gentillesse. Et donc, elle va disparaître, elle, en 1933, effrédée, donc, en 1938. Et ce petit monde repose d'ailleurs aujourd'hui dans le cimetière de Saint-Cyr-sur-Morin, à quelques kilomètres de Paris, qui est jumelé d'ailleurs avec la République de Montmartre. Nous y sommes allés il n'y a pas très longtemps, en délégation. C'est un endroit charmant. Pierre Macorlan, il y avait sa maison. L'âne Lolo dont je vous ai parlé, il repose aussi. Donc, en fait, les vieux Montmartrois, lorsqu'ils quittaient Montmartre, allaient s'installer à Saint-Cyr-sur-Morin. C'était un peu une espèce de but Montmartre bis, là, aux portes de Paris. Voilà, donc, ça, c'est pour cette évocation, donc, du Père Frédé, et puis de cette merveilleuse époque. On peut en profiter, si on a deux petites secondes, d'ailleurs, pour
raconter. Alors, non, on n'a pas de petites secondes. Bon. On va tout de suite, Gérard, passer le bobineau, et on revient juste après, et là, vous aurez plus que deux, trois petites secondes.
Avec grand plaisir.
Chaque été, plus de 50% des donateurs de Radio Courtoisie cessent de financer nos programmes, mettant dangereusement notre existence en péril. N'abandonnez pas votre radio sur la route des vacances. Radio Courtoisie continue d'émettre en juillet et en août, mais nous avons besoin de vous pour passer le cap de l'été. Donnez à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien vous êtes dans le Florilège des Arts, eh bien avec notre invité du jour, qui n'est autre que Gérard Le Tailleur, et nous parlons du Lapin Agile, cette institution culturelle, ce qui va devenir, entre autres, sous l'impulsion de Frédé, dont on parlait là justement, eh bien une véritable institution de la bohème de Montmartre, bien sûr, qui est la grande spécialité de notre ami Gérard. Parlez, continuez donc à nous parler du Lapin Agile, et je vous ai interrompu pour ce court bobineau à un moment donné où vous souhaitiez ajouter quelque chose. Alors, c'est le moment.
Voilà. Ben écoutez, oui, parce que pour mettre nos auditeurs dans l'ambiance de cette période du début du XXe siècle, plus précisément en mars 1910, Frédé et ses amis vont se livrer à un canular extraordinaire, parce que ça a eu énormément de répercussions à l'époque. Imaginez, nous sommes en plein après-midi, il fait beau, les gens sont dans le jardin, ils sont en train de boire, je suppose, une fée verte, donc une absinthe, les uns et les autres. Autour de la table, vous avez Francis Carcot, Pierre Macorlan, Roland Dorgelès, Guillaume Apollinaire, Picasso, Pablo Picasso, ils sont là, et puis bon, et puis on parle de choses et d'autres. Et puis il y a le fameux Lolo dont je vous ai parlé, qui est dans le jardin, parce que il faisait certes les marchés avec Lolo, qui l'aidait, qui portait toutes les charges, mais Frédé ne voulait pas s'en séparer. Donc dans le jardin, il y avait l'âne qui était là. Donc. Et puis soudainement, Dorgelès dit, mais on pourrait peut-être faire quelque chose d'étonnant. Et si on lui faisait peindre un tableau à ce Lolo? Alors tout le monde sourit, et le gag va se transformer peu à peu en réalité, parce que on va placer donc au bout de la queue de Lolo un pinceau, on va chercher des couleurs, on va chercher un châssis, on tire une toile, et puis peu à peu l'un des invités donne des carottes au brave Lolo, qui remue la queue, enfin on va dire son appendice caudal, pour être un peu plus précis, et voilà le brave Lolo qui, sans trop s'en rendre compte, va barbouiller avec sa queue donc la fameuse toile qui sur laquelle vont apparaître énormément de couleurs, à tel point d'ailleurs qu'il faudra trouver un titre à ce tableau. Et ben comment trouver un meilleur titre que « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Voilà, c'est le coucher de soleil sur l'Adriatique. Alors, on peut dire que la blague aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. C'est c'est qu'ils se sont dit, on va quand même prolonger cela. Et comme c'est l'époque où allait se produire quelques jours plus tard à Paris le Salon des Indépendants, on dit, on va présenter une œuvre étonnante. Alors tout d'abord, il fallait trouver un nom de peintre, on ne pouvait pas signer le tableau Lolo. Donc on va se poser des questions. Et Dorgelès dit, ben voilà, dans les fables de La Fontaine, La Fontaine appelle son âne Aliboron. C'est Aliboron. Alors on va jouer avec les lettres d'Aliboron et va naître le nom de Boronali, grand peintre italien exceptionnel.
Ah, oui.
Et ce Boronali donc va signer ce soleil qui s'endormait donc sur l'Adriatique. Et on prend cette toile et on va l'accrocher sur un des murs donc du Salon des Indépendants. Et là, les critiques vont passer. Et avec des propos étonnants dans la une de la presse.
Particulièrement élogieux.
Oui, absolument extraordinaire. Quel est cet artiste fantastique, ce grand révolutionnaire, ces couleurs étonnantes. Et donc, voilà ce tableau qui est encensé par toute la presse et par tous les grands critiques du moment. Alors, il faut dire que Dorgelès éclate de rire. Et ça a duré pendant toute la durée du salon, jusqu'on va dire la veille de la fermeture ou à la une de la presse, là, c'est Dorgelès qui raconte l'histoire. Donc on imagine la tête un petit peu de ces critiques pris un peu à leur propre piège, d'encenser comme ça un peu n'importe quoi. Et bref, mais ce tableau existe toujours. Alors je sais qu'aux dernières nouvelles, il était à Milly-la-Forêt, donc dans une petite galerie. Donc c'est un musée, un petit musée, où on peut toujours aller le voir. Donc, mais ça a vraiment marqué à l'époque le monde de l'art, et on s'en doute. Mais je pense que
soleil s'endormit sur l'Adriatique.
Voilà, je le
voilà. De Joachim Raphaël Boronali.
Eh ben mon Dieu.
Il est en effet à Milly-la-Forêt, espace culturel Paul Bédu.
Eh ben voilà, voyez. Voilà.
Cette fumisterie de nos amis.
Voilà. Donc, alors entre-temps, Frédé aussi vieillit, hein, et en 1923, d'ailleurs, Bruant, donc, qui avait acheté donc, quelques années auparavant, bien sûr, le Lapin Agile pour y mettre Frédé, décide, pour que ça ne s'arrête pas, parce que Frédé est fatigué, il a envie un peu d'arrêter, de mener comme ça continuellement ce cabaret qui avait de plus en plus de succès, d'ailleurs, où il se sent très à l'aise. Mais Frédé décide de passer la main et de donner les rênes à son fils Polo. Alors, Bruant l'apprend, et Bruant sait pertinemment que le pauvre Polo n'a pas d'argent, ni le père Frédé d'ailleurs, qui gardait pas, faisait pas véritablement d'économie. Alors en fait, Bruant va pratiquement offrir le cabaret, va le vendre pour vraiment 2 francs 6 sous, quoi, donc à Polo. Et voilà, oui. Donc Polo qui se retrouve à la tête de ce cabaret, et qui va lui alors attirer aussi, parce qu'il a tout à fait le même état d'esprit que son père. Alors il va attirer tous les grands dans ces années 30 à peu près, puisque là on va laisser passer, bien sûr, la guerre est déjà passée, la Première Guerre mondiale, mais tout du moins les années difficiles qui suivirent, parce que la France s'est retrouvée aussi dans des situations dramatiques sur un plan même au niveau des épidémies, de tout ce qui se passait, d'où la création d'ailleurs de la République de Montmartre, hein, ces artistes qui se sont réunis en 1920 pour créer un dispensaire, donc, dont bien sûr Francisque Poulbeau. Donc on est dans cette ambiance où les gens souffrent beaucoup, où tout le monde essaye de mettre un petit peu sa pierre à l'édifice pour faire avancer dans le bon sens cette vie très très dur pour les familles plus que modestes. Alors on voit arriver donc les artistes. Alors je vais citer un nom tout à l'heure, Rina Ketty, qui fait vraiment ses débuts au Lapin Agile. Et puis il y en a d'autres. Il y a Pierre Assaut aussi, Pierre Assaut qui va vivre avec Édith Piaf aussi quelques années après, qui va écrire pour Édith Piaf, et il va s'occuper d'elle. Jacques Pils, qui avec Tabet vont créer un duo très connu à l'époque de musical, Pils et Tabet. André Pasdok, et puis aussi celui qui allait devenir un des plus grands comédiens, d'une grande famille d'ailleurs de comédiens, puisqu'il s'agit de Pierre Brasseur. Pierre Brasseur, oui. qui va fréquenter le Lapin Agile. Et puis, quelques années plus tard, vont apparaître alors des personnalités hors du commun, dont Pierre Dudan. Pierre Dudan qui aura même quelques soucis parce qu'on pense qu'il pensait qu'il a pensé un petit peu mal pendant la guerre. Pierre Dudan qui arrêtera sa carrière, je pense on peut dire, dans les années 50. Jean-Roger Cossimon. Alors Jean-Roger Cossimon, c'est un personnage qui vient de Bordeaux. Il a un petit accent bordelais, il va même prendre des cours pour perdre cet accent bordelais. Et il a tous les talents, c'est un comédien formidable. C'est un chanteur, il chante. Il va d'ailleurs faire des disques un petit peu plus tard, dans les années 70, avec ses propres chansons. Cossimon, c'est un homme qui connaît bien Léo Ferré. Il va voir Léo Ferré. Moi, j'ai connu Léo. C'est Léo Ferré qui m'avait raconté, d'ailleurs, cette anecdote où Cossimon venait le voir. Et alors, il venait pas le voir pour lui présenter des textes de chansons. En réalité, il avait un ou deux textes qu'il avait pliés soigneusement dans une enveloppe et venait, il parlait avec Léo de la pluie, du beau temps, un petit peu, il donnait des nouvelles de Montmartre, notamment, et pourquoi pas du Lapin Agile. Et puis Léo l'écoutait, puis au moment de partir, il saluait Léo et sa femme, et puis il disait, tiens, au fait, j'ai ça. Alors il sortait son enveloppe, il donnait ça à Léo Ferré. Tiens, regarde, si tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire, si tu peux trouver une musique sur ces textes-là. Et en fait, il a écrit les plus belles chansons qu'a chanté Léo Ferré. D'ailleurs, un jour, Léo, j'étais avec lui, il me dit, dis-moi, quelles sont les chansons que tu préfères parmi mon répertoire. Et alors, à chaque fois que je sortais un texte, il s'agaçait en me disant, mais c'est pas de moi, c'est de Cossimon. Et Dieu sait que Cossimon a écrit de véritables merveilles. Et puis une des chansons même qu'il a chantées, qu'il a interprétées par la suite, comme Les Cœurs Purs, des chansons merveilleuses. Voilà, c'est des chansons que je ne peux que conseiller à nos amis auditeurs d'écouter, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement émouvant d'ailleurs, surtout aujourd'hui où, bon, pas dire que à ce niveau-là, les auteurs compositeurs-interprètes se bouscule dans la grande qualité, dans la grande création. Là, on est ailleurs. Ne disons pas de mal de ce que les jeunes essayent de faire. Il y en a qui sont très bien, mais on les entend peu. En revanche, beaucoup enregistrent des ce qu'on appelle des chansons qui, bon, ne sont pas trop en ce qui me concerne.
Bon, bref. Alors, est-ce que vous voulez, Gérard, que l'on que nous émettions maintenant la deuxième pause musicale que vous avez choisie?
Avec grand plaisir. Alors là, en quelques petites secondes, vous allez entendre Yves Mathieu, qui chante La Ronde des Marmites. Alors, il y a énormément de sous-entendus, parce que c'est Bruant qui a écrit cette chanson, dans l'argot de l'époque, avec des termes argotiques qui peuvent un petit peu surprendre. La Ronde des Marmites, ce ne sont pas les marmites du restaurant, parce qu'une marmite, à l'époque, c'était une prostituée, vous voyez, donc ça vous donne une idée de la manière dont il faut bien écouter cette chanson. Voilà, et Yves Mathieu, avec sa voix, on va parler de lui tout à l'heure, parce que il avait une voix tout à fait étonnante, extraordinaire, mais là, il se laisse aller et il nous chante du Bruant.
Allons-y.
Les chats sont gris,
dansons la ronde.
La nuit tous les chats sont gris,
dansons la ronde.
Faisons le tour de Paris, de Montmartre à Montsouris.
Dansons la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris. Les rongeuses de monde, faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous.
Dansons la ronde, Paris est à nous.
Nous foutons bien des lois,
dansons la ronde.
Nous foutons bien des lois,
dansons la ronde.
Les ducs, les princes, les rois se réchauffent sous nos toits.
Dansons la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris. Les rongeuses de monde, faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous.
Dansons la ronde, Paris est à nous.
Petit poisson grandira,
dansons la ronde.
Petit poisson grandira,
dansons la ronde.
Et tant que Paris sera, la marmite bouillira.
dansant la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris, les ronges de monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous.
Dansant la ronde, Paris est à nous.
Nous consolons les cocus.
Dansons la ronde.
Nous consolons les cocus.
Dansons la ronde.
En tout temps, on les a vus nous apporter leurs écus.
Dansons la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris, les ronges de monde. Faisons sauter avec nous nos bichets et nos marlous.
Dansons la ronde. Paris est à nous.
À l'heure des assassins,
dansons la ronde.
À l'heure des assassins,
dansons la ronde.
Nous endormons sur nos seins les sergents et les roussins.
Dansons la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris, les ronges de monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous.
Dansons la ronde. Paris est à nous.
La nuit, tous les chats sont gris.
Dansons la ronde.
La nuit, tous les chats sont gris.
Dansons la ronde.
Faisons le tour de Paris, de Montmartre à Montsouris.
Dansons la ronde.
Des marmites de Paris, oh et les souris, les ronges de monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous.
Dansons la ronde. Paris est à nous. Dansons la ronde. Paris est à nous.
Eh bien voilà, Yves Mathieu, dans ce Florilège des Arts, en compagnie de Gérard Le Tailleur, Yves Mathieu qui interprète Aristide Bruand. Yves Mathieu, qui est le beau-fils, je crois, de Polo, et Polo va lui transmettre à son beau-fils, justement, ce lapin agile. Vous pouvez continuer ou nous dire quelques mots encore sur... ce morceau de musique.
Bien sûr, voilà. Donc, on vient d'entendre donc Yves Mathieu, qui a fait une carrière d'ailleurs sous un autre nom, celui de Yves Thomas. Alors, c'est un homme qui a fait des études dans le domaine musical. Il a été diplômé du Conservatoire national de musique en art lyrique. Il était dans la classe du grand Charles Panzera. Il s'est lancé, et après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il était chanteur d'opérette. Il a même conduit des revues aux Folies Bergères. Il était extrêmement connu. Il a chanté des œuvres de Pierre Delanoë, d'Hubert Giraud, de Jean Dréjac, de Maurice Jarre. Et de fil en aiguille, il a été amené à faire des tournées aux États-Unis, notamment au Canada, où il était très très célèbre. On le surnommait d'ailleurs le French Crooner. Donc, parce qu'il faut voir des photos de lui où effectivement il est un très beau gars, superbe, avec une voix magnifique. Et c'était avant de devenir cette figure emblématique du lapin agile, il avait fait une belle carrière. Puis vous savez ce qui s'est passé dans les années 60, malheureusement, donc le mouvement les yéyés ont pris le dessus sur les chanteurs à voix, et donc c'est à ce moment-là qu'il est parti faire des tournées à l'étranger notamment. Alors tout a commencé, on peut dire, c'est sa maman qui s'appelait Yvonne Darle, qui était une très très bonne chanteuse, qui un soir, donc là on est avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, décide d'aller passer avec des amis une soirée au Lapin Agile, et Yvonne, donc, on lui demande de chanter, elle chantait si bien, on lui demande de chanter une chanson, deux chansons, trois chansons, et puis Polo, le fils de Frédé, va tomber amoureux d'elle, et ils vont vivre ensemble jusqu'au bout d'ailleurs, et il s'avère qu'elle avait un enfant, un tout petit à l'époque, qui était né en 1928, donc il avait une dizaine d'années, comment dirais-je, notre ami Yves Mathieu, et c'est le moment donc où Yvonne Darle va chanter, elle va passer toutes ses soirées à chanter donc au Lapin Agile, et Yves, dans cette ambiance-là, donc va continuer, et peu à peu sera amené donc à remplacer Polo. Et jusqu'à ces derniers jours, pratiquement, hein, puisqu'il nous a quittés le 6 juin. Donc, voilà cet homme qui a décidé à un certain moment donc d'interrompre sa carrière internationale. malgré tous ses succès, pour se consacrer à son cabaret, Le Lapin Agile. Et sa figure, son œuvre reste indissociable véritablement de ce fantastique endroit. Quoi. C'est petit.
Pendant plus de 50 ans. Il reste moins de 10 minutes, justement. Donc, si vous voulez nous parler un peu plus d'Yves Mathieu, c'est le moment, Gérard.
Voilà. Donc Yves va faire cette carrière. Il va rencontrer beaucoup d'artistes. C'est lui, notamment, qui, un jour, rencontre un jeune Toulousain qui fait son apparition, véritablement, à Montmartre, à Paris. Ce jeune Toulousain était envoyé par son père. Son père, qui était, je crois, baryton à Toulouse, au Capitole. Il s'appelait Nougaro, le père, voilà, comme le fils, Claude. Claude, le jeune Claude, arrive devant le Lapin Agile. Bon, il sonne, la porte s'ouvre, Yves Mathieu le regarde. Ils ont le même âge, tous les deux, ils ont le même âge. Et donc, ils vont sympathiser. Le pauvre Claude, il a vraiment pratiquement pas de source de revenus. Ils vont tellement sympathiser que à la fin de leur rencontre, Yves va lui dire, bah, écoute, je crois qu'on a une petite chambre au premier, bah, je te la laisse, t'as qu'à dormir là en attendant d'aller un petit peu mieux, financièrement parlant. Et donc, Claude va s'installer vraiment, vraiment au Lapin. Et il ne vient pas pour chanter, il vient pour réciter ses textes, parce qu'il voulait déclamer. Il faut dire qu'il avait une voix, Claude Nougaro, aussi, avec ce merveilleux accent toulousain, là. Donc, on était à l'écouter, déjà. On était dans le midi de la France, pratiquement. Donc, on voit ce personnage qui arrive, qui déclame des poèmes. Et il s'avère que à l'entrée du Lapin Agile, il y avait une jeune femme aussi qui s'occupait avec Polo de la gestion donc du cabaret. Et Claude Nougaro va tomber amoureux d'elle. Et avec elle, ils vont avoir une fille, une petite fille. Et de cette rencontre et de la naissance de cette petite fille, qu'il va bien sûr surnommer Cécile, et pour cause, c'est la musique, Cécile, eh bien, et oui, va naître une chanson merveilleuse, Cécile, ma fille, qui nous a tous fait plus ou moins pleurer lorsque nous l'écoutions dès sa sortie dans ces années 60 à peu près. Donc c'était extrêmement émouvant. Donc voilà le grand départ de la carrière de Nougaro,
qui va
toujours d'ailleurs tourner pratiquement autour de Montmartre. Il va gagner un petit peu d'argent, il va en gagner beaucoup, il va acheter un superbe hôtel particulier avenue Junot, et puis il va avoir des ennuis avec Eddie Barclay, qui veut pas renouveler son contrat, étant donné qu'à un certain moment sa carrière fonctionnait vraiment beaucoup moins bien. Donc il est obligé de vendre pour continuer de vivre. Il vend son hôtel particulier et il décide de partir à New York. Et à New York, que fait Claude Nougaro? Eh bien, avec le peu d'argent qu'il avait récupéré, il loue un studio d'enregistrement et avec des musiciens professionnels, il va enregistrer quelques chansons, dont le fameux New York. Et ce Nouga York, eh bien, va être vendu, je crois, au moins à 500 000 exemplaires dès sa sortie en France. C'est un succès tout à fait colossal, à tel point qu'il retourne voir la personne à qui il a vendu sa maison et qui ne voudra absolument pas lui rendre. Donc, il s'installera à différents endroits dans Paris, notamment. Mais enfin, ça donne une idée de ce climat d'amitié en même temps qui régnait entre ces personnages dont on a parlé. Et tout le temps, bah, il se retrouvait au Lapin Agile avec son ami Yves Mathieu, qui est un homme particulièrement chaleureux, qui a deux fils, qui nous a laissé deux fils. Et c'était émouvant parce que là, j'étais au cimetière Saint-Vincent lorsqu'il y a eu ses obsèques. Et tous les artistes qui passent actuellement au Lapin Agile, qui viennent réciter leurs poèmes, étaient là autour du cercueil. Et chacun déclamait et puis un poème. Et notamment, certains qui étaient encore chantés le soir par... quelques jours auparavant, donc par Yves Mathieu. C'était très émouvant. Et ensuite, j'ai vu le cercueil porté se diriger à travers une allée que je connais bien, puisque c'est là où repose Michou. Et donc, il est de très bonne compagnie. Et puis d'ailleurs, la tombe qui fait l'angle de cette allée, c'est celle d'un des plus grands comédiens français, oublié aujourd'hui, et c'est dommage. Il s'appelait Harry Bore, qui est un personnage tout à fait étonnant, qui a qui joue notamment dans L'assassinat du Père Noël, qui est un des plus grands succès du cinéma français au début des années 40, avec de grands personnages aussi, qui joue dedans d'ailleurs. C'est prodigieux, c'est un film qu'on peut revoir sur le net aussi, avec tous ces grands acteurs, ces grandes actrices de l'époque. Voilà, donc c'est un véritable plaisir de se retrouver, un plaisir d'être dans un cimetière, oui, parce que c'est un véritable musée, hein. Vous avez tellement d'artistes qui sont là. Et Yves Mathieu, ben, il repose à quelques mètres de Michou, qui fut notre ministre de la nuit à la République de Montmartre. Nous avons eu vraiment de belles rencontres aussi durant toutes ces années.
Yves Mathieu était membre de la République aussi, j'imagine.
Il était plutôt côté, comment dirais-je, commune libre de Montmartre, voilà, vous voyez. Mais enfin, chez nous, je pense qu'il doit être citoyen d'honneur de la République aussi. Mais il était très, très sollicité par la commune libre, et on le comprend d'ailleurs parce que c'est aussi une association de grande qualité, où on a beaucoup d'amis, et d'ailleurs on se rencontre de plus en plus. Et d'ailleurs, vous savez, ce sont les mêmes artistes qui ont fondé les deux en 1920, alors, et puis,
bien sûr,
pour des raisons, un peu intéressant au départ. Il y a eu des scissions même au sein de la commune. Il y a eu la commune libre de Montmartre, et puis il y a eu la commune libre du vieux Montmartre, etc. Mais enfin, peu importe. C'est l'idée générale qui doit toujours primer. Et ces personnalités qui ont tellement marqué la vie de Montmartre depuis plus d'un siècle maintenant, eh bien, comment dirais-je, on fait qu'aujourd'hui, on est toujours sur cette lancée, et c'est important. Il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de fraternité aussi. Et il faut d'ailleurs, je vois au niveau de la République de Montmartre, on s'occupe toujours des petits poulbeaux, c'est-à-dire des enfants en difficulté, des papillons blancs, les petits handicapés du 18e. On organise, là on était il n'y a pas très longtemps, avec le cirque Pinder aussi, on a renoué cette tradition avec le monde circassien. Hein, puisque depuis les années 20, avec les Fratellini et autres, eh bien, il y avait beaucoup de réunions avec qui ont reçu les enfants en difficulté pour des spectacles gratuits. C'est tout cela, voilà. C'est tout ça, Montmartre. Voilà.
Eh bien, oui, c'est tout cela, Montmartre. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir partagé encore cet amour que vous avez de la butte de Montmartre au travers.
Est-ce que j'ai le temps, non, de dire quelque chose, quelques petites. Non, bah alors, je n'ai plus rien.
Alors, c'est fini. L'émission s'achève, mon cher Gérard. Une prochaine fois, sûrement, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, aux auditeurs de Radio Courtoisie. Encore merci à Arnaud, merci à vous, mon cher Gérard Le Tailleur. Nous rendons l'antenne, et c'est la fin de cette émission et de ce Florilège des Arts. Merci encore.
Merci, Nicolas.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.